Desjardins est fier de présenter Les Dérangeants, le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Quand les entrepreneurs ont besoin de soutien, chez Desjardins, ils ne dérangent jamais. Visitez desjardins.com/entreprise. Ils font le tour du monde, signent de gros contrats, écœurent pas mal de monde et nous racontent tout ça. Voici Les Dérangeants.
Bonjour et bienvenue à ce deuxième chapitre des Dérangeants. Mon nom est Patrick Marcellet et aujourd'hui, on va accueillir PL Cloutier, qui est un des influenceurs de la première heure ici au Québec et toujours quand même un des rares à pouvoir gagner sa vie. Et on va également débattre sur l'importance des réseaux de contact quand on est entrepreneur. Et pour ce faire, ben, nos dérangeants aujourd'hui, Carlo Coccaro, fondateur de Matémo Monde et aidersonenfant.com.
Salut, Pat!
Bien sûr, un gars dynamique. Marie-Claude Duquette, qui est présidente du groupe Triton.
Salut!
Et Étienne Crevier, fondateur de Biogénique.
Hello!
On débute ça avec les coups de cœur et avec les coups de gueule. Je débute avec toi, tiens, Marie-Claude.
Je commence la saison avec un coup de cœur. Je reviens cet été d'un voyage de 6 semaines consécutives en dehors du pays. J'ai barré le bureau, j'ai dit « moi, je pars et je vais prendre soin de moi, de l'entrepreneur ». L'année passée, ça a été une année vraiment forte en émotions, beaucoup de transactions, des gros montants. Et j'avais un point où est-ce que j'étais comme « OK, un peu essoufflée ». Puis je ne pouvais plus faire la différence entre Marc-Claude et Marc-Claude, présidente de Triton. Fait que j'ai annoncé à mon équipe, j'ai dit « hey, le capitaine, il s'en va plus droit là ». Fait que j'ai dit « je m'en vais, je prends 6 semaines ». Ils ont cheeré up, ils ont dit go, vas-y, ah ouais, fais-le. Fait que ça se fait, guys. En tant qu'entrepreneur, tu peux prendre des vacances, tu peux prendre soin de toi. C'est ce que j'ai fait. Ça fait du bien. Je reviens ressourcée avec plein de nouvelles idées. Puis écoute, si quelqu'un veut m'écrire là-dessus puis que je peux donner des cues, ça va vraiment me faire plaisir de partager mon expérience qui a été vraiment, vraiment bénéfique.
Très cool. Ça, c'est un beau coup de cœur. Moi, j'ai un coup de gueule contre les entrepreneurs qui partent en voyage pendant 6 semaines, qui mettent des photos d'elles en surf puis qui nous font rêver puis baver comme ça pendant 6 semaines.
Ils sont fatigués, eux autres.
Hein? Attends! Carlo!
Moi, c'est un coup de cœur sous forme d'appel à tous. On sait, là, il y a la solitude de l'entrepreneur, ça existe. Puis en discutant avec un ami entrepreneur, on a connecté sur la notion de bienveillance. Être un entrepreneur bienveillant, ça veut dire prendre soin de son monde, prendre soin de soi, prendre soin de nos clients, prendre soin des gens qui nous entourent, puis de l'impact qu'on peut avoir dans la société. Puis on a décidé de créer une communauté d'entrepreneurs bienveillants.
Cool!
Donc, des entrepreneurs qui visent la croissance, puis en même temps, qui veulent apprendre à mieux se connaître, mieux s'outiller et mieux s'entourer. J'ai aucune idée ce que ça va donner, mais mon appel à tous, c'est si ça vous intéresse, que vous soyez partout au Québec, envoyez-moi un courriel, carlo@aidersonenfant.com, puis on va essayer de bâtir quelque chose.
Une espèce de réseau d'entraide. Là.
Exactement. Okay, exactement.
Okay, okay. Étienne.
Ben moi, j'ai un coup de cœur que tu n'as pas scrappé le nom de Carlo et aider son enfant et Matémo Monde en début d'épisode. Fait que félicitations.
C'est parce que les gens ne s'en rendent pas compte. On fait du montage, Étienne.
Un autre gars. Tu as vu qu'on a tous roulé les yeux pendant que tu dis ah, c'est du montage.
Non, tu écouteras le premier épisode qui est sorti et disponible. C'est... On l'a gardé intact. C'est quand même juteux. Écoute, moi,
j'ai. Enchaîne, Étienne.
Ben, en fait, moi, je vais rebondir sur le coup de cœur de Carlo parce que c'est un coup de cœur aussi sur l'impact social, sur être un acteur de changement. Il y a le Coopératon en ce moment à Montréal, propulsé par Desjardins du 2 octobre au 20 novembre prochain, qui est une compétition d'innovation ouverte au Canada, un peu sur le modèle du Google Sprint Innovation. Ça a été marqué par une conférence de l'astronaute Chris Hadfield, puis il recommandait aux gens présents dans la salle qu'un succès rapide est la pire situation pour un individu, pour un entrepreneur. Ce qu'on veut, c'est un échec rapide. Ça m'a vraiment parlé comme entrepreneur, comme personne aussi, de dire, mais en fait, ce qu'on veut, c'est se casser la gueule, c'est avoir des coups d'en face, puis c'est apprendre de ça pour justement ne pas les refaire.
Merci beaucoup.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les Dérangeants.
La vie d'entrepreneur, ça commence avec une grande idée puis un budget pas mal moins grand. On l'a tous fait. Pas de salaire, squatter le Wi-Fi d'un café, manger du beurre de peanut. Mais quand on a un produit à développer, un site web à créer, ça prend du cash. La bonne nouvelle, Futurpreneur Canada aide les entrepreneurs âgés de 18 à 39 ans partout au pays. C'est le seul organisme national sans but lucratif à offrir des ressources gratuites, du financement pouvant atteindre 60 000 et du mentorat aux nouveaux propriétaires d'entreprise. Pour être connecté à un représentant, contacte info@futurpreneur.ca.
Les Dérangeants! Les Dérangeants!
L'entrevue de la semaine vous est présentée par Groupe RP. La pénurie de main-d'œuvre vous donne des maux de tête? Visitez la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca.
Dans un milieu où les vedettes se font et se défont en moins de temps qu'il ne faut pour crier Instagram, notre invité a réussi l'exploit quand même de rester pertinent et populaire depuis l'ouverture de sa chaîne YouTube en 2014. Mesdames et messieurs, PL Cloutier.
Merci d'être là. On dit que je suis pertinent. Merci beaucoup.
Non, mais, ça reste à prouver.
Ah, OK. Non, je le disais, t'es populaire, PL, mais tu bûches en Christie.
Oh, OK. Non, mais ben, c'est quand vrai. Même, oui, c'est vrai. Ça a l'air... on fait des vidéos à la maison, on s'amuse, on fait des blagues, ça. Mais c'est vrai que ça demande une certaine rigueur, il y a eu beaucoup de travail et tout ça.
Fait que, et quel... s'habille en passe-montagne.
Oui, c'est vrai. Je porte un chandail beaucoup trop coloré, je ne l'assume pas.
Mais c'est drôle parce que tu le dis en souriant, comme si tu étais même un peu gêné d'avouer que tu travailles. C'est...
Mais ça veut dire quoi, beaucoup de travail? C'est-tu 20 heures semaine? C'est-tu...
Mais ça se compte pas, tu sais. Puis je pense que tout le monde qui fait un peu, qui est en affaires ou qui a son projet, le fait sans compter les heures. Tu sais, je pense aux gens qui ont des restaurants, tout ça, tu leur demandes combien d'heures par semaine tu travailles. Il n'y a pas de réponse. C'est tout le temps un peu, mais tout le temps beaucoup. C'est, on travaille quand il faut. Fait que disons que c'est 7 jours sur 7, mais pas nécessairement des journées complètes, tu sais. Mais c'est sûr qu'on est dimanche matin, je vais aller faire un petit peu le courriel, un peu de médias sociaux, mettre en ligne des choses souvent le week-end, fait que ça n'arrête jamais.
PL, tu es un influenceur, donc.
Le mot tabou.
Exact. En fait, c'est même pas le mot tabou, c'est le mot qui n'a pas bonne presse, j'ai envie de te dire. Ouais. Auprès, mettons, des 35 ans et plus, on va se dire les vraies affaires. Là, t'sais, on l'a vu encore avec un article de Marc Cassivier récemment. T'es-tu écœuré d'avoir à te justifier?
Mais je me justifie pas tant que ça. Mais c'est vrai que les influenceurs, on a une mauvaise réputation auprès des gens qui ne nous suivent pas. On a un problème d'image, on a un problème de perception. Si on est loin des médias sociaux, tout ce qu'on entend parler... À propos des influenceurs, ça nous vient des médias traditionnels qui couvrent pas ce qu'on fait en temps normal, sauf quand il y a une gaffe. Fait que c'est sûr que la perception est un peu... Il y a un déphasé pour ceux qui suivent pas personne sur Instagram. Mais je pense que quiconque nous suit... comprennent un peu pourquoi des fois on est tanné de se faire
dessus,
puis voient un peu que c'est souvent injustifié ou de la méconnaissance.
De vue de l'extérieur, comme ça, on a l'impression que votre clientèle, entre guillemets, je vais utiliser le mot comme ça, c'est beaucoup plus des jeunes. Moi, je regarde, bon, tu sais, c'est ma fille, mes enfants, etc., etc. Est-ce qu'en ce sens-là, on sait que c'est un public aussi qui peut, comment dire, être assez infidèle rapidement? Est-ce que c'est une inquiétude que tu as?
Évidemment, quand on est sur YouTube, plus notre public est jeune, plus on va avoir de clics. Parce que c'est un ils ont l'habitude d'aller sur YouTube. Pour eux, ouvrir la télévision, c'est quoi? Faut que j'attende que mon émission joue. Je peux pas juste la partir. Il y a quelque chose qui les achale. Ils sont pas habitués à ça. Fait que oui, il y a beaucoup de jeunes sur YouTube. Moi, je suis chanceux, les abonnés vieillissent avec moi quand même. Puis je trouve ça vraiment le fun. Puis on a l'impression que c'est beaucoup des enfants qui me suivent, mais c'est comme autour de 10% qui sont des 17 ans et moins. C'est vraiment 18 à 24 ans qui est la tranche principale. Ensuite, il y a les 25-34 ans, et là, ça, plus on vieillit, il reste juste ma mère à m'amener dans la... qui regarde. Fait que non, ils sont moins jeunes qu'on pense, puis on le voit dans le style de rencontre qu'on a avec les abonnés. J'ai fait beaucoup de rencontres où les gens criaient, faisaient des pancartes, se costumaient. Là, on le voit moins. Ils vont venir si on fait un truc dans un party, si on fait quelque chose qui est un peu plus mature, ils sont encore au rendez-vous.
Ce que tu as glané comme information cruciale que tu pourrais transmettre aux entrepreneurs qui nous écoutent pour maximiser leur présence sur les Instagram,
sur les
YouTube
sociaux,
de ce monde,
et là, là, c'est très difficile parce que j'adorerais connaître la recette magique de l'algorithme. Malheureusement, on ne nous la donne pas. On l'apprend par essai-erreur.
Et ben, déjà, ça, c'est une leçon. Essai-erreur pour les entrepreneurs.
Et tout ce qu'on pense qu'on sait, généralement, ça dure une saison et c'est à recommencer la saison suivante.
OK, il change l'algorithme souvent, finalement.
Tout le temps. Avant, le poids géographique d'un... Si, par exemple, un utilisateur écoutait ma vidéo en Australie puis j'en avais un autre en France, bon, c'était pas très grave. Maintenant, l'endroit où la vidéo connaît le buzz va déterminer vers quel auditoire elle va être poussée par la suite. Ce qui fait que c'est rendu beaucoup plus dur d'avoir des auditoires qui sont autant en France qu'au Québec ou dans le reste de la francophonie.
Donc, il faut que tu crées du contenu ciblé. Mettons, si tu vas percer en France, il faut que ton contenu attire spécifiquement les Français.
C'est qu'il faudrait que j'entre dans une boucle de contenu parce que YouTube fonctionne comme ça. C'est vraiment une loupe de vidéos suggérées les unes après les autres. Ouais. Ce qui veut dire que si mon désir, c'est de percer en France, j'ai intérêt à me coller à des boucles de contenu là-bas, donc récupérer des tendances là-bas, faire des vidéos avec des YouTubers français. Mais c'est que la fois où je vais décider que dans ma vidéo, moi, j'ai envie de faire un hommage à Marjo, mais là, je vais débarquer de l'algorithme en France. Puis bonne chance la fois d'après quand j'arrive avec Keblack pour essayer de se carrer, ça ne marchera pas.
Mais d'abord, c'est-tu plus difficile ou tu vois-tu une différence ou est-ce que tu penses que dans le temps, ça va être plus difficile de pouvoir acquérir puis pouvoir faire de l'argent avec YouTube? Ou...
Au niveau de l'argent, tout ça, je ne le sais pas. Mais au niveau d'avoir une chaîne avec beaucoup d'abonnés, je pense que oui. Ça va être de plus en plus difficile parce qu'il y a de la compétition incroyable. Moi, quand j'ai commencé, on était 8 YouTubers. Là, c'est des dizaines et des dizaines de milliers de jeunes Québécois et moins jeunes qui sont sur YouTube, qui prennent la place. Fait que se démarquer est plus difficile, mais c'est surtout que les gens... Avant, ce qui guidait l'algorithme, c'était le fait de s'abonner à une chaîne. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus notre historique de vidéos qu'on a regardées. Ce qui veut dire que si je demande aux abonnés, aux gens qui regardent la vidéo, « Abonnez-vous! » Ça ne veut pas dire qu'ils vont savoir que je publie une vidéo, la prochaine vidéo que je publie. Ils ne seront pas nécessairement notifiés. Fait que je pense que ça va être de plus en plus dur bâtir une communauté autour de quelqu'un.
Fait que dirais-tu que dans le fond, tu as de la compétition? T'sais, est-ce que tu es en compétition avec les autres influenceurs ou vous êtes des amis qui vous aimez puis qui s'entraident?
Ouais. Ben, au contraire, on gagne à collaborer. C'est sûr que si je suis dans une vidéo avec Rosalie Lessard, qui en ce moment, sa chaîne explose, qui fait une chaîne cuisine super le fun, c'est certain que ça va avoir des répercussions sur ma chaîne parce que là, l'algorithme va comprendre qu'il y a quelque chose en commun entre nos contenus. Fait que oui, on gagne. Moi, je pense pas qu'il y a une compétition. Je pense que la compétition, c'est de faire les meilleures vidéos. C'est pas comme un contre l'autre.
Oh. Fait que mettons qu'il y a un de tes concurrents, on va dire un concurrent, mais qui se fait pogner dans un taxi. Toi, t'es empathique à sa cause plus.
Mais c'est que ça change rien sur YouTube. Okay. Ça. Là, un endroit où ça peut changer quelque chose, par exemple, c'est au niveau des partenariats avec les marques. Parce qu'évidemment, c'est sûr que s'il y a 6 profils équivalents aux miens, il faut que le mien se démarque. Hein, oui. Parce que je me mets dans la peau d'une agence de publicité qui représente, je ne sais pas moi, les Quincailleries Rona. Mais là, on cherche un jeune, tel style, montréalais, qui veut parler pour notre campagne publicitaire. Oui. Bien, là, on va choisir 5 personnes. Mais là, je voudrais quand même peut-être être celui qu'on choisit en premier. Fait que s'il y en a un qui se fait pogner dans le taxi, bien, ça fait un de moins. Non, mais je fais des blagues, mais honnêtement, c'est parce que si on commence à vouloir contrôler tout ce qu'on contrôle pas dans notre système, on dort plus puis on fait plus rien. Fait que okay. Moi, je vais faire du mieux que je peux, puis tant mieux si on me choisit.
C'est quoi la proportion de tes revenus entre les partenariats et YouTube ou les autres projets comme ton livre, etc.? Tout te donne un peu ou il y en a qui vont plus dans tes REER?
mon conseiller financier aimerait t'entendre.
Mes REER. Est-ce que tu gardes tes factures, PL?
Je garde tout ça. Inquiète-toi pas, ça me coûte assez cher les faire classer. Je peux te dire que je les garde. La proportion des revenus, c'est vraiment difficile de répondre à ça parce que ça change beaucoup. Ça a beaucoup changé en 5 ans sur YouTube. Avant, YouTube était comme le roi des médias sociaux sur lesquels on pouvait faire des sous. Maintenant, ça s'est beaucoup transféré sur Instagram.
Pour les brands, ça, principalement.
Oui, exactement. Ben, en fait, c'est des sources de revenus parce que dans le fond, c'est ça. Tu vas avoir sur YouTube, qui est la seule plateforme sur laquelle tu peux générer un revenu de façon automatique, tu vas avoir un montant à chaque fois que quelqu'un regarde la vidéo. C'est des fractions de cents que tu vas recevoir. Ça prend, je dirais, qu'une chaîne en bas de 1 million de vues par mois. C'est extrêmement difficile de pouvoir en faire un travail à temps plein. Si on se base uniquement sur les revenus de YouTube. Ouais. Ensuite de ça, il y a les intégrations avec les marques où on va vouloir s'associer à un contenu comme ce podcast, je sais, présenté par une institution financière.
Desjardins, pour ne pas le nommer, moi aussi.
Bon, alors c'est ce genre de partenariat aussi qu'on peut retrouver sur ma chaîne YouTube et sur Instagram, tout ça. Ça, c'est une très grande partie des revenus des influenceurs, YouTubeurs, Instagrammeurs, tout ça. Ça peut représenter... je ne sais pas, 70 % des revenus. Ah bon, après ça, moi, j'ai écrit un livre, j'ai fait une tournée de spectacle, j'ai vendu des T-shirts, j'ai fait des posters. J'ai un site web maintenant qui est un magazine en ligne. Fait que, tu sais, c'est vraiment d'avoir un petit peu
Un t'es un média, finalement, c'est ça. Tu gères un média qui s'adonne à porter ton nom.
Parce que d'une même, ça a l'air très intense. Là. C'est moi puis mes deux chats. Hein?
Pierre-Carl Pelado, mettons. Là. Oui. C'est ton compétiteur.
Il n'y a pas d'équipe autour de toi? T'es pas une équipe? C'est toi qui fais tout ce dont tu parlais, le démarchage, tout ça, c'est toi qui fais tout ça?
Ça dépend vraiment de quel projet on parle. Quand c'est un livre, évidemment, j'ai une maison d'édition avec les relations de presse, le distributeur, ça devient une espèce de structure folle. YouTube, c'est encore moi à 100% qui s'en occupe. Ça peut arriver quelquefois que je vais engager un caméraman ou quand j'ai un tournage un peu compliqué pour juste, moi, me libérer l'esprit puis me concentrer sur le contenu. Fait que ça peut arriver que je vais avoir des pigistes qui vont m'aider. Et puis, j'ai une agence qui s'occupe de mes liens avec les marques, qui va négocier mes contrats. Je veux, quand je fais un contrat, qu'évidemment, ce soit aux meilleures conditions possibles. C'est un message à mes agents. Mais tout ce côté-là, dans le fond, m'arrive par défaut. Moi, c'est comme pour moi faire du montage puis de la technique puis gérer mes affaires. C'est tous des chapeaux que je suis obligé de porter, mais que si j'avais les revenus pour déléguer ça, je le ferais comme avec grand plaisir. C'est pas ma passion, moi, de lire mes états financiers, de faire « Oh mon Dieu, OK, je comprends rien ». C'est là, j'ai ça dans une pochette chez nous.
Tu as été nommé top influenceur au Québec par le sondage Léger. Les marques comme Desjardins, Vidéotron, Netflix sont toutes associées dans ce sondage-là que pour les 18-34 ans. Tout entrepreneur qui nous écoute en ce moment veut avoir un brand qui fonctionne. T'sais, je disais juste Coca-Cola, c'est 35% de la valeur de la compagnie, c'est sur son brand. Hein? C'est fou, là. 234 milliards, 80 milliards.
Je dirais que moi, c'est 100% de la valeur est sur mon brand.
C'est exactement là que je veux t'emmener, parce que dans le fond, c'est quoi les trucs que tu donnerais à un entrepreneur pour avoir un brand qui fonctionne?
Eh là là, j'aimerais ça le savoir. Honnêtement, j'adorerais m'asseoir avec des gens en publicité pour qu'on comprenne c'est quoi exactement, puis qu'ils dressent le profil de mon brand, parce qu'il est vraiment moins étudié qu'on pourrait penser. C'est vraiment pas... J'ai fait une tournée de spectacle, c'est vraiment juste parce que j'ai vu un YouTuber que j'aimais faire ça, puis j'ai fait, moi,
c'est une bulle au cerveau.
C'est vraiment intuitif, là.
Ouais, j'ai pas. Je vais à l'instinct beaucoup. Évidemment, j'essaie de pas faire
de
conneries.
Genre de gars qui fait chier de même, là.
Sûrement
que la réponse, ça veut dire être naturel aussi. Tu sais, le brand va être associé fort à quelqu'un qui a l'air d'être lui-même.
Mais l'authenticité,
puis, ouais.
Ouais, ben j'essaie évidemment. C'est parce que moi, c'est ça l'affaire qui est difficile aussi des fois quand on travaille avec les marques. C'est que moi, de tout ce que je fais, je le défends. Et des fois, les marques préfèrent qu'on ait la version sucrée dans la version publicitaire. Et c'est pas toutes les marques qui sont aussi éduquées, aussi habituées de travailler avec les influenceurs. Et ça m'est déjà arrivé dans des projets où peut-être que c'est ça qui définit mon brand. C'est que moi, je préfère ne pas faire un cachet que d'aller dire n'importe quoi aux abonnés, puis après ça, de le réécouter, puis d'être gêné, de me voir.
Parce qu'il y en a qui font ça.
Mais pas juste des influenceurs. Moi, j'ai vu des animateurs de radio déguisés en essuie-tout. Non. Non, mais tu sais, ce genre de choses-là, on se fait demander de se costumer en l'uniforme du client. Puis je suis comme, non, moi, je me déguise pas en céréales, puis en super-héros, puis tout ça. Tu sais, j'ai vraiment un côté, moi, où c'est ça, j'ai envie d'être content de mes vidéos. Puis je veux pas être gêné après quand on m'en parle.
Le monde du web évolue vite. Tu vas-tu encore exister dans 10 ans?
Mais peut-être pas sur le web, mais j'espère que je vais être encore. Ben,
humainement, je te le souhaite, mais ouais. Je veux dire, médiatiquement parlant, comment est-ce que tu vas réussir à t'adapter si tu as besoin de t'adapter pour survivre, d'après toi?
Mais je pense que je m'adapte déjà. Si on regarde mes vidéos que je fais dernièrement versus celles où j'étais au début de ma chaîne, moi, je vois une évolution. Je sais que je ne parle plus aux abonnés de la même façon non plus, parce que là, combien de fois je peux être surpris qu'ils me reconnaissent sur la rue. Évidemment, il y a une maturité qui s'est installée dans mes trucs. Mm-hmm. Pour moi, c'est le vrai défi. J'adorerais avoir une boule de cristal pour voir l'avenir.
On est tous.
Oui, ce serait peut-être ça l'affaire qui m'empêcherait de dormir. Qu'est-ce que je vais faire pour rester pertinent? Ce que je souhaiterais, c'est qu'on intègre les influenceurs comme des créateurs valables dans ce qui existe déjà. On a des super plateformes, tout TV, nouveau. Il y a plein d'espaces où on pourrait, au lieu de prendre les YouTubers comme des gens qui peuvent nous faire la publicité pour nos plateformes, mais pourquoi pas les intégrer dans le contenu? Ce serait plus ça qui me tenterait.
La pub de Coke du Nouvel An, finalement, c'était une très belle façon d'intégrer les influenceurs
Ben oui, puis je pense que la pub, il y avait comme un concours associé à ça, puis là, les gens ont voté pour. Là, il y avait toute une stratégie de médias sociaux. Ça, là, ça a l'air, ça n'a pas fait que des heureux. Hein. parce qu'ils trouvent qu'on a acheté le vote avec la campagne. Parce que dans le fond, les publics pouvaient voter pour leur publicité préférée pendant le bye-bye. Mais Coca-Cola, ils ont pensé à tout. Là. Il y avait une stratégie pour faire sortir le vote avec les influenceurs. Puis là, ça a l'air que les autres qui n'ont pas gagné étaient comme déçus de. Ils trouvaient
t'étais
que c'était
dedans,
pas juste. Mais là,
pub.
Hey, il fallait y penser, là, 2019, allô?
P.A. Cloutier, je ne sais pas où tu seras dans 10 ans, mais avec ton côté sympathique, mon vieux, ton dynamisme, c'est drôle, je suis pas bien, bien inquiet maintenant.
Ah bon, OK, bien, tant mieux. T'en fais un de moins.
Merci beaucoup, P.A.
Merci, ciao.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants! Tu gères une PME qui grandit? Tu croules sous les nouveaux projets? Mais tu sais bien que pour livrer, ça te prendrait des candidats qualifiés. Ça court pas les rues, hein? Tu veux qu'on t'en présente? Recrute avec Groupe RP, la référence en chasse de tête au Québec. GroupeRP.ca. Les dérangeants.
Le débat de la semaine, une présentation de Garling WLG. Le succès, ça se prépare et ça se protège. Développer les meilleurs réflexes en matière de droit et propriété intellectuelle. Visitez garlingwlg.com.
On est de retour avec les dérangeants et avant d'attaquer le débat, on va y aller avec une petite question dérangeante. Alors, messieurs, dames, je veux savoir, en affaires, quelle est la chose qui vous rend le plus jalouse ou jaloux?
Un entrepreneur qui prend ses semaines de vacances?
Ah, comme Marie-Claude, effectivement.
Ça,
oui.
Ça vient de profond, là.
Non, mais elle l'a dit, c'est possible, Étienne. Faut juste que tu te le permettes.
Honnêtement, ouais. Je pense qu'aujourd'hui, là, comme...
Je peux te donner des trucs.
S'il te plaît, pour vrai, je suis rendu là. J'ai pas pris mes vacances d'été encore. J'ai dit à mon équipe, prenez vos vacances, je vais prendre ce qui reste. Ben ce qui reste, c'est fin octobre, début novembre.
Donc, toi, t'es jaloux des gens qui, en tout cas, jaloux, on s'entend, là, mais qui sont capables de prendre des vacances comme ça puis qui s'en offrent, qui s'en autorisent, devrais-je dire.
En ce moment, oui.
OK, parfait. Carlo?
Moi, j'ai eu une conversation il y a quelques mois avec un entrepreneur à succès qui a vendu son entreprise pour... je présume, plusieurs dizaines de milliers de dollars, millions de dollars.
Mais on se parle tous les jours, Carlo.
Et
hein,
non, c'est pas toi. et j'étais jaloux de sa capacité à comprendre la game de l'argent, comprendre comment maximiser chacune des opportunités qu'amenait son modèle d'affaires. J'étais, en trois phrases, je me disais, oh, OK, c'est un autre niveau, là. Je suis pas là pour toi.
OK, c'est intéressant, ça aussi. Marc-Claude?
Jalouse. Je pense j'envie. C'est la même affaire.
C'est des synonymes, on est d'accord.
Ouais. Mais j'envie les gens qui ont une capacité d'emmagasiner énormément d'informations en peu de temps, de le dégueuler. Puis je suis comme, waouh, moi, ça me...
Le dégueuler.
Le dégueuler.
Le verbaliser par la suite.
La diarrhée verbale.
Ouais, ouais, la diarrhée verbale. Ouais.
OK, OK, OK.
Ouais, ouais, j'aimerais ça être capable de faire ça. Moi, je suis tout le temps dans le senti. Des fois, j'aimerais ça être un petit peu plus cérébral. Là.
OK.
C'est ça.
C'est parfait, c'était bien dégueulé.
Ça fait plaisir.
On est prêt à amorcer ce débat-là, les amis. Quand vous vous êtes réunis, vous avez entre autres choisi le thème. L'importance du réseau de contact. Mon réseau de contact est plus gros que le tien, bon, etc., etc. J'ai envie, dans un premier temps, de savoir pourquoi est-ce que vous êtes teniez à parler de ce thème-là. Tiens.
Bien, c'est un thème qui revient tout le temps en entrepreneuriat. Entre autres, quand tu démarres ton entreprise et que tu n'as pas nécessairement de réseau, un des premiers réflexes que tu vas lire dans n'importe quelle revue d'affaires ou dans n'importe quel livre, c'est l'importance du réseau, l'importance de faire des 5 à 7 puis d'aller voir du monde puis collecter des cartes d'affaires à gauche puis à droite.
Tu as toujours quelqu'un qui va dire « Ah, je vais te présenter mon ami, attends. » Puis là, c'est comme tu l'écoutes puis mon Dieu, ce gars-là, il a l'air de connaître tout le monde puis que sa vie doit bien aller.
Ouais.
Puis comme pour revenir sur la question dérangeante, tu es un peu jaloux de ce monde-là, tu sais, comme qui... Ça a l'air que d'un coup de téléphone, lui, il peut avoir le financier, le VC numéro 1 qui a fait un chèque de 5 millions.
Puis c'est difficile au début de savoir à quel point c'est important le réseau de contact, comment s'en créer un si c'est important, comment l'entretenir, puis quelle personne est importante à avoir dans son réseau de contact. Fait quand on a nos conversations, on parle entre autres de tous les sujets liés à l'entrepreneuriat, puis celui-là est revenu souvent depuis la saison 1, puis là, on a décidé de le faire maintenant.
Et est-ce que c'est à ce point important-là, un réseau de contact?
Ben, si tu veux mon opinion, pour moi, j'ai lu un livre qui a changé ma vie qui s'appelle « Never eat alone ». Ne mange jamais seul. Puis quand tu y penses, on a tous 24 heures dans une journée. Moi, maintenant que je travaille à Brossard, j'ai 22,5 heures par journée parce que j'en passe une heure et demie dans le trafic. Donc, j'essaie d'optimiser, j'essaie de maximiser. Puis c'est sûr que dès que tu as un moment de libre, pour moi, c'est d'aller solliciter, d'aller rencontrer des nouvelles personnes, d'aller travailler ton réseau. Puis... je dis toujours que ma journée, c'est du 10 à 10. Moi, je ne suis pas un lève-tôt dans la vie, là, mais comme c'est très rare que quand je pars du bureau à 6 heures, c'est que j'ai pas quelque chose le soir. Puis j'essaie de maximiser ça pour que chaque occasion, chaque dîner, c'est pour rencontrer du monde, c'est pour étendre mon réseau.
Mais comme moi, on m'a déjà dit, c'est pas ce que tu sais, c'est qui tu connais. Fait que c'est pour ça, c'est pas grave si je ne magasine pas tant d'informations parce que je connais bien du monde.
mais il reste que, pour vrai, sérieusement, parce que vous avez beau avoir des qualités entrepreneuriales, là, de ce que je comprends, c'est que ça prend aussi des qualités sociales vraiment importantes parce que c'est pas tout le monde qui a non plus les capacités de se vendre. Il n'y a pas tout le monde qui a l'envie non plus de le faire.
Moi, j'arrête tout de suite. Quand je me rappelle, quand j'ai commencé à 26 ans, à bâtir mon réseau de contacts. J'étais full gênée. Moi, je suis une introvertie de base. Il y en a qui le savent pas, là, mais je le suis. Puis, je me rappelle, mes jambes shakaient. J'étais, oh my God, il faut que je rentre, puis j'aille faire du... Tu sais, un 5 à 7 que tu connais personne, tu t'accotes au bar, puis t'es comme, haha! Je t'ai dit, je voulais mourir. Puis aujourd'hui, ben tu sais, ça fait 5 ans que je l'ai bâti, puis je suis rendue une experte de comment se présenter dans un événement.
Ouais, puis il y a un peu de « fake it until you make it ». Ouais. Au début, tu commences, tu n'es pas à l'aise, mais il faut passer par là. Puis tout le monde doit le faire, d'apprendre à se vendre un peu. Mon père disait toujours, dans la vie, il y a 30 % de savoir-faire, 70 % de faire savoir. De beau être super bon, si personne ne le sait, ça ne sert à rien.
Oui, puis il faut que tu sois dans le trafic, parce que c'est dans le trafic que ça se passe. Fait que si tu restes chez vous puis tu vois personne, ben tu sais pas ce qui se passe, tu vois pas les... Tu sais, des fois, il y a des gens qui peuvent t'aider, fait qu'il faut que tu sois dans le trafic.
Mais comment ça marche? Mettons que vous arrivez dans un 5 à 7, là, vous n'en avez pas de contact ou à peu près pas. Vous dites-vous, à un moment donné, bon, là, ça me prend un contact, j'ai besoin d'un avocat, je vais avoir besoin d'un comptable aussi. Oups, toi, tu fais quoi? T'as des plombiers? Ah non, ça, j'ai pas de temps à perdre avec toi. Fait que là, comment ça marche?
Mais si je peux dire, juste avant que vous répondiez, parce que moi, j'en fais pas de 5 à 7, là, c'est que dans les 5 à 7, j'ai un préjugé négatif, le trois quarts du monde, c'est justement des avocats, des comptables, des notaires et des courtiers immobiliers qui cherchent des clients. Ça ne m'intéresse pas.
Ça,
si
je suis d'accord.
Si je veux un bon courtier immobilier ou un bon avocat, je vais appeler des amis entrepreneurs qui ont des références à me donner. Fin de ma parenthèse, c'est pour ça que je ne fais pas de 5 à 7, parce que souvent, c'est juste des gens qui cherchent des comptes.
Réalistiquement, tu es capable de saisir aussi un 5 à 7 que ça coûte 12$ le billet pour aller. C'est comme, OK, bon, tu sais, c'est...
Ouais, la qualité, tu parles.
La qualité, à un moment donné, tu sais, mais il y a des événements à Montréal. Moi, c'est septembre à novembre, puis mars à mai, là. Je ne sais pas ce qui se passe, mais il n'y a pas... J'ai pas une soirée de libre. J'ai un budget à chaque année de billets pour des galas, des balles, c'est deux Montréal, parce que c'est des immanquables. C'est même une question à un moment donné de dire « Ah, t'étais pas à C2 Montréal cette année, ça va-tu bien, la business? »
OK. Mais donc, ce que je comprends, Étienne, c'est que des affaires à 12$, ça t'intéresse pas.
OK, c'est no bullshit, là. Ouais, comme... ouais.
Non, mais moi, on est, je cherchais un groupement. Tu sais, j'appelle le groupement des chefs. Bon, ben, t'as pas assez d'employés. Bon, OK. Qu'est-ce que je préfère? Qu'est-ce que je pourrais trouver d'autre? Puis, tu sais, moi, ça a été l'école d'entrepreneurship de Beau. Je sais, j'en parle souvent, mais ouais. Ça a été, tu sais, vraiment un moment très pivot dans ma vie de ce réseau-là d'entrepreneurs avec qui tu peux juste, tu sais. Puis, on s'entend, là, j'ai pas nécessairement un avocat, un comptable. C'est pas ça. C'est des entrepreneurs qui, eux, connaissent du monde aussi. Puis, c'est ça aussi. Ton réseau, là, tu le travailles, tu l'entretiens, puis c'est pas une fois que c'est ton ami, tu sais, tu continues à l'entretenir, puis des fois, les gens t'appellent, « Marie, tu connais-tu quelqu'un qui peut m'aider pour ça? » Oui, parfait. Mais ça va dans tous les sens, fait qu'après ça, c'est comme exponentiel aussi. C'est pas, tu sais, la personne que lui connaît. C'est pas tout le temps la personne que toi, tu connais.
Un réseau, c'est important parce que c'est un accélérateur formidable. Fait que tu sais, je dis pas que c'est pas important le réseau, au contraire. Mais moi, je maximise mon temps. J'essaie d'avoir des gens de très grande qualité dans mon réseau. Mais je sais que si je passais du temps dans les 5 à 7, je pourrais accumuler de ces personnes-là aussi puis ajouter à mon réseau. Pour les nouveaux entrepreneurs là, qui nous écoutent ou ceux qui sont là puis qui ne sont pas à l'aise avec le réseau ou avec la notion de réseau, oui, il faut aller vers les autres puis oui, il faut s'intéresser aux autres, c'est une bonne façon. Mais après ça, si tu as un bon modèle d'affaires, que tu crois en ce que tu fais, que tu sais que tu peux y arriver... Des contacts, ça se développe aussi pour des besoins que tu as. Tu as besoin de quelqu'un pour te mouler un moule, puis je sais pas quoi. Tu fais des appels, puis tu vas te chercher des personnes intéressées, tu vends ton projet.
Je suis vraiment d'accord sur l'aspect réseau de qualité. Puis dans le réseautage, il y a quand même un aspect très pervers qu'il faut faire attention.
Ben c'est... Oui.
Julien Brault de Hard Bacon, qui était aussi journaliste au Journal des Affaires, a fait un post en août dernier sur Facebook, puis ça m'a vraiment touché, puis j'ai verser une larme parce qu'il dit « Quand j'étais journaliste au Journal des affaires, tout le monde voulait être mon ami. Ils voulaient de la visibilité. Ensuite, j'ai travaillé en capital risque. Ils voulaient tous devenir mon ami parce qu'ils pensaient que je pouvais leur donner de l'argent. Puis quand j'ai parti ma start-up, personne ne voulait me parler. Plus personne n'était là. Mais quand j'ai levé 500 000 $ sur FrontFunder, tout le monde voulait redevenir mon ami. » Il y a comme un sentiment que tout le monde veut être avec les cools. C'est comme être dans le cours d'école puis tout le monde veut se tenir avec les cools. Mm-hmm. Mais sont-ils là pour les bonnes raisons? Fait que moi, je suis d'accord avec Carlo et Marie que tu veux ton réseau fort, proche de toi, qui est là pour les bonnes raisons. Ouais. Mais après ça, il ne faut jamais arrêter. Never eat alone. C'est pas, ça ne devient pas des amis, ça devient juste des contacts, ça devient quand même un réseau. Tu as quand même le téléphone rouge pour appeler les bonnes personnes.
Mais ça, je pense que c'est le cœur de tout ça, c'est l'authenticité. C'est ce qui fait que tu les gardes, ces relations-là, puis que justement, la journée que tu as besoin d'eux, ben ils vont être là.
Mais vous parlez de bons contacts depuis tout à l'heure, vous parlez d'authenticité, tout ça. Est-ce que ça vous prend, excusez-moi l'expression, là, rapidement un radar accrocheur?
Ouais.
Oui.
Claire. Oh my God.
Ah oui.
Oh, oui.
Faut que tu sois vraiment aux aguets. Là.
Ben, je suppose, oui.
Mais tu sais, c'est un peu dans tout. Là. Tu sais, je veux dire, tu as dit les gens qui sont sort d'énergie. Là, même mm-hmm. affaire.
Des vampires.
Là. Ouais, même affaire.
Vous allez prenons Carlo, par exemple.
J'exabasse.
Mais donc, il y en a qui ont déjà des contacts que vous espériez avoir, que finalement, qui étaient là un peu plus par intérêt pour essayer de vous, soit de vous soutirer quelque chose ou.
Coucher avec toi.
En tant que fille, oh oui, non,
c'est... Ouais, mais regarde, honnêtement, Marie, on y pense tous, là, je...
Ben oui, honnêtement,
oui. Sincèrement, moi, le radar que j'ai, c'est quelqu'un qui fait du name-dropping à profusion. Ça, je suis pas capable.
Un réseau de contact, puis là, je vous demande d'être ouvert là, et honnête. Un réseau de contact, ça sert évidemment à être conseiller, bien sûr, des conseils juridiques, peu importe, des conseils comptables, peu importe. Est-ce que ça sert aussi, peut-être, à paraître un peu plus big qu'on peut l'être? C'est-à-dire, moi, je connais un tel. Donc, avez-vous déjà fait du name-dropping? Ça arrive-tu des fois de...
Moi, je l'ai déjà fait, puis ça marche. Fait que je vais peut-être continuer.
Pour rentrer dans les événements, des fois, ça marche très bien.
Ah oui, hein, ça sert aussi à ça, donc, en quelque part.
La vice-présidente exécutive, elle me connaît. Écoute, je vais juste aller la voir, ça ne dérange pas. Puis là, tu rentres
dans
le chien.
Ah, mais des fois, moi, je suis comme, ouais, je connais un tel, c'est mon ami. Ah ouais. Ah, ben vite, OK, parfait, merci. Ouais, ça marche.
OK. Ça sert donc en relation, en affaires, tout ça, là.
Ouais.
Okay.
Je connais Pat Marcellet. Oui, j'enregistre
ça,
avec lui.
C'est écoute, malade. C'est... Essaye-le pour vrai.
La quantité de filles qui m'ont dit qu'elles allaient me rappeler après, là.
T'as vendu combien, Eugénie?
Zéro.
Carlo, toi, t'as pas de l'air sûr que...
Ben moi, je fais pas ça de name-dropping. Je suis fatiguant, là, mais je suis juste dans le vrai. Je me sens pas le besoin de me relever en nommant les autres.
Non, mais je pense pas que c'est faux de faire du name-dropping.
C'est dans une conversation.
Je veux dire, je le connais.
Non, mais je t'attaquais pas, là. Mais prends-le pas comme une attaque.
On se connaît en commun. Hey, on a un point commun, c'est lui. Puis ben, si ça m'aide, ben tant mieux.
Oh, oui, non, mais j'ai rien contre. Mais moi, j'en fais... Moi, je suis comme... De toute façon, mon réseau de contact, il est petit. Quand on parle entre entrepreneurs, entre les dérangeants, là, souvent, je ne connais pas le trois quarts des personnes qui sont nommées dans la conversation. C'est comme ça, je l'assume. Pis... Mais tu sais, comme c'est un accélérateur, c'est clair que j'ai moins d'accélérateurs de réseau de contact que Étienne peut en avoir. Ouais, c'est clair que ça l'a favorisé dans sa vie entrepreneuriale. Mais moi, j'ai ma vie qui est différente. Puis tu sais, des parents entrepreneurs, il y en a un char et une barge. Il y en a beaucoup. Puis moi, je dis, sentez-vous pas mal de parler dans les 5 à 7? La vie avec tes enfants, tu n'en revivras jamais. Fais-la maintenant. Tout se développe. Ça, tu prendras le temps qu'il faut plus tard quand tu en auras plus de temps.
Carlo, tu me rassures et c'est là-dessus qu'on va finir.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les
dérangeants! C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. Fier d'encourager la coopération entre entrepreneurs partout au Québec.
On vous en a parlé dans le premier épisode. On a un nouveau segment qui commence aujourd'hui avec la question d'un auditeur ou auditrice. Alors, on en a une première. Elle nous vient de Catherine Roux, qui est la cofondatrice d'un nouveau projet qui va être lancé bientôt et qu'on peut déjà suivre sur les réseaux sociaux. C'est la boutique Cheers. Alors, on l'écoute tout de suite.
Salut les dérangeants, je m'appelle Catherine Roux. Je suis la cofondatrice de la boutique Cheers, un dépanneur de bière de microbrasserie Nouveau Genre dans Pointe-Saint-Charles à Montréal. On lance une boutique en ligne de bière avec un inventaire connecté en temps réel avec celui qu'on a en magasin. En plus d'offrir des bières exclusives qui vont être disponibles seulement chez nous, on a envie de revoir vraiment l'expérience et le concept d'une boutique de bière. On va livrer à la maison et au bureau. Notre problème, c'est qu'on se demande à quel moment il faut engager des ressources pour nous aider. On hésite entre le turning point de « ben, on fait tout nous-mêmes, on économise » versus « on va être beaucoup plus performant puis on va pouvoir avancer ». Bref, on attend de vos nouvelles. Merci beaucoup. Cheers!
Alors, est-ce que Catherine doit engager maintenant et rapidement ou si elle doit y aller un peu plus par elle-même?
Bien, moi, si je me fie à ce que j'ai fait, j'ai engagé très vite. Ça m'a mis beaucoup de pression. Je dormais mal la nuit parce que j'avais ce syndrome de l'imposteur. J'avais besoin de monde pour me rassurer. Mais la réalité, c'est qu'il y en a des travailleurs autonomes. Il y en a des consultants. Puis, tu es capable de flusher rapidement. Tu es capable d'en prendre plus. Si c'est une équipe qui n'a pas une spécialité propre, moi, je dis, engage pas. Jusqu'à temps que tu aies vraiment besoin.
OK. Carlo?
Moi, j'ai l'impression qu'il faut que son modèle d'affaires soit sûr avant. Parce que quand tu embauches trop vite et que ton modèle d'affaires ne fonctionne pas, tes ventes pourraient augmenter, mais c'est comme une chaudière percée. Tu rajoutes de l'eau dedans, mais ça coule de toute façon. Fait que ça s'assure que le modèle d'affaires soit bon, les ventes augmentent, les profits augmentent, là, tu peux embaucher. Mais si tes profits n'augmentent pas quand tes ventes augmentent, des bonnes chances que même si tu embauches, ça ne fonctionne pas.
OK. Marc-Claude, d'accord avec ça?
Oui, bien moi, je regarde tout le temps, en fond, le montant d'argent. Tu sais, j'essaie de dégager un certain montant. Qu'est-ce que ça vaut comme salaire? Est-ce que je suis capable de promettre, dans le fond, de pouvoir le payer sur un long terme? C'est ce qui va déterminer. Puis de dire, cet argent-là, dans le fond, ça ne devient pas un profit, ça va devenir une dépense, mais ça me dégage des heures. Fait que c'est, moi, j'évalue tout le temps avec le nombre d'heures par semaine. Qu'est-ce que je suis capable de dégager? Puis sinon, je fais comme Étienne, je vais en sous-traitance pour aller chercher un juste milieu d'heures.
Il y a une métrique super intéressante. On ne valorise pas assez, c'est les revenus par employé. Facebook, ça doit être, je pense que c'est du 900 000 $ par employé. Un car dealership, ça va être du 30 000 $ par employé. Donc, vraiment, de valoriser, de faire plus d'argent par employé, ça, c'est vraiment un facteur de succès.
Excellent. Merci beaucoup, Catherine. J'espère que ça répond à ta question.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!
C'est quoi le problème? Une présentation de Desjardins Entreprises. T'aimerais demander conseil aux dérangeants? Envoie ta question sur lesdérangeants.com/911.
Bon, bien, écoutez, c'est déjà terminé. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Ben oui, merci, Étienne. Merci, Marie-Claude, Carlo.
C'est un bel épisode.
Oui, j'ai particulièrement aimé le débat. Honnêtement, vos positions plus tranchées, je trouvais ça bien trippant.
Mais PL était très intéressant aussi. Merci, Pat.
Grand plaisir. On se retrouve dans deux semaines, évidemment. On va accueillir le fondateur de Poche et Fils, Anthony Vandramme, et on va accueillir surtout notre nouveau dérangeant. Je vous laisse le suspense. On vous ne le nomme pas tout de suite. Dans deux semaines, donc, notre nouveau dérangeant. Bye tout le monde. On se retrouve prochainement.
Bye.
Le podcast de la nouvelle génération d'entrepreneurs au Québec. Les dérangeants. Les dérangeants!